Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2, épisode 30. Vous le sentez, le soleil sur la peau, là, le soleil qui frôle Thibaut Van der Werve. Ah non, oh non, tu n'es pas encore à Cannes, c'est vrai, on enregistre cet épisode avant que ce soit Cannes. Et on va parler de films qui sont notamment en sélection officielle, enfin un film qui est en sélection officielle et qui nous concerne tout particulièrement, puisque c'est le nouveau film des frères Dardenne, le jeune Ahmed, qui est présenté en compétition au Festival de Cannes. Mais... En voyant le titre de cet épisode, vous avez vu qu'il n'y avait pas que le jeune Ahmed. Il y avait également John Wick 3, de son nom Parabellum, je pense que c'est le nom complet, où on va voir encore une fois Keanu Reeves dans tous ses états, 20 ans après Matrix, hein, comme quoi c'est un bel anniversaire pour lui. Et troisième film, Aladdin, le retour du prince Ali. Non, c'est pas le titre officiel du film. C'est Aladdin, le remake live action avec Will Smith. Est-il bleu? Est-il noir? On ne sait pas.
Aladdin, la vengeance.
La vengeance de Monsieur Aladdin.
Aladdin, motherfucker.
Non, non, c'est pas une version straight out of Compton de Aladdin. Non, non, avec Ice Cube.
Oui, moi je pensais à The Dictator. Ok. Sacha Baron Cohen, tu vois. Tu n'as pas vu?
Ah, oui, j'ai vu.
Aladdin, motherfucker.
Ok, bon, les références. Donc on commence bien cet épisode. Trois films au programme, Le Jeune Ahmed, John Wick 3 et Aladdin. On va tout de suite plonger dans le vif du sujet et parler de Cannes, puisque c'est quand même dans l'actualité ces temps-ci, avec le nouveau film des frères Dardenne de Luc et Jean-Pierre qui s'appelle Le Jeune Ahmed. De quoi ça parle, Le Jeune Ahmed? Le synopsis est très court, hein. C'est en Belgique, de nos jours, un jeune homme qui s'appelle Ahmed, qui a 13 ans, et c'est une surprise hein, jusqu'ici, qui est pris entre des idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie, attention, sujet sensible. Tu as eu l'occasion de le voir avant le festival, Thibaut. Forcément, embargo oblige, vous ne pouvez pas en parler, donc on enregistre maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là des frères Dardenne? Le retour des frères Dardenne, on peut dire.
Oui, alors Guillaume...
mais non, mais c'est...
Le duplex, pas terrible ici.
Le duplex.
Bah oui, en direct de...
C'est ça, il faut faire des bruits de passage derrière. Genre.
Ouais.
Il n'y a pas de mouette à Cannes. Il y a des mouettes à Cannes? Bah
non, mais je...
pas vraiment.
Est-ce
hein.
que tu sais imiter la mouette? Moi j'étais voir un spectacle hier soir.
Non, c'est pas du tout.
Elle imitait la mouette.
Ah bah écoute,
plutôt bien.
Parce qu'ils sont pas là.
Mais je vais pas.
Non.
Le jeune Ahmed, les frères Dardenne. Alors déjà, si vous êtes encore en train d'écouter ce podcast, félicitations. si vous n'êtes pas parti.
C'est une blague pourrie.
Au moment où on a dit qu'on allait parler des Dardenne, c'est bien. Si vous êtes toujours là.
Bah, c'est pour ça qu'on a mis John Wick et Aladdin après. Hein. On est malin, tu vois. On est...
Bien vu. Malin singe.
C'est pas mal.
Ça parle d'un jeune garçon, Ahmed.
Tu peux le refaire
voilà. Oui. Allez, j'explique le film comme je veux. Ça
okay. va. Pris entre les idéaux de son imam et les appels de la vie.
C'est ça la phrase exacte.
Oui, je te jure, c'est ce qui ouais. est marqué.
Ah, d'accord. Qui, effectivement, est tenu un peu en tenaille, si je puis dire.
Ok, mal embarqué.
Ouais, mal embarqué, parce que d'un côté, il y a... En fait, quand on découvre Ahmed, il est déjà dans une phase assez j'écoute l'imam, quoi. Et l'imam, il n'a pas des idées...
De paix, de pardon.
Hein, oui, voilà. Pas très progressiste. Il est très... le Coran au pied de la lettre, voire à son interprétation personnelle. Et donc, le jeune, il est entre ça. Et puis après, il y a plutôt ses proches qui essayent de le sortir un peu, parce qu'ils sentent bien qu'il y a des petites dérives qui se mettent en place petit à petit. Il y a notamment une prof qui l'aide à l'école des devoirs. Il y a aussi sa mère un peu. Donc voilà, il y a pas mal d'interrogations.
Je suppose qu'on parle d'un milieu favorisé, ou bien on est plutôt à serein.
Ah, on est à Serein. Hein.
Oui, forcément.
On est à Serein, mais cela dit, c'est un milieu, je veux dire, classe moyenne. Hein, je
d'accord.
Pense.
Mais c'est pas genre la famille a problème avec la maman qui prend de la coke et.
Ah non, non.
Voilà,
non,
on n'est pas dans les films où ça va dans l'extrême, quoi. Oui.
Non, non, famille très classique. Mère belge, père d'origine arabe et musulmane. Et donc, enfant issu de la diversité. qui vivent en Belgique avec leur mère, qui est seule. Le père n'est plus présent. Et donc, il y a une relation un peu conflictuelle parfois entre Ahmed et sa mère. Donc voilà, c'est un environnement qui n'est pas facile, facile. Et le problème est que, enfin le problème, je dis ça comme si c'était juste un petit problème, c'est que les dérives islamistes vont être graves. Il va attenter à la vie de quelqu'un. Et puis il sera placé en IPPJ,
Maison d'arrêt.
en maison d'arrêt pour jeunes, effectivement, où il va tenter ensuite d'être réhabilité. Enfin voilà. Et tout un travail
Toute une épopée pour le jeune Ahmed, hein, du coup.
Ah oui, complètement. Mais, du coup, en fait, le film s'intéresse surtout à parler de cette thématique. Alors, je vais pas dire le terrorisme, on n'est pas encore là, mais un islam radical qui est traité via un jeune qui
Son cœur balance,
il est un
quoi.
peu trop proche. Voilà, il se rapproche un peu trop de ces choses-là. Et puis en fait, on découvre comment, on va dire, une espèce de tentative de rédemption, ou en tout cas de se sortir de cette boucle, si je puis dire. Et c'est ça que le film raconte, en fait. C'est ça qui intéresse les frères, qui ont toujours un sens de la mise en scène assez incroyable. On adhère ou on n'adhère pas, mais voilà, leur caméra épaule qui suit les personnages, ça fonctionne toujours à crever. Il n'y a pas de musique non plus, et en même temps, il n'y en a pas besoin. Donc. Ça, c'est quelque chose. En fait, ça pose. Enfin, c'est pas que ça pose problème, mais c'est quelque chose que le public a du mal à.
Digérer.
Oui, à digérer, mais aussi à accepter. Les gens ont l'impression que les films d'Ardenne, c'est que des films sociaux chiants, avec.
C'est des
Filmés
documentaires,
toujours
quoi.
de la même
Ouais.
façon, il n'y a pas de musique. Forcément, comparé aux standards américains, si je puis dire, en tout cas aux standards de divertissement actuels. On est complètement dans autre chose, donc c'est clair que c'est pas évident comme cinéma.
Même dans les standards de films dramatiques, hein, tu vois, il y a des films dramatiques où on essaie un peu plus d'édulcorer le truc, d'être un peu plus light, d'avoir un
Ouais.
peu de musique, comme tu dis, etc. Ou des scènes un peu plus d'humour. Là, les frères Darden,
C'est brut.
c'est très brut, hein,
C'est brut, et en fait, c'est ce qui fait leur force, parce que dès que tu mets de la musique dans un film, que tu le veuilles ou non, ça joue sur toi. Et moi, c'est quelque chose qui souvent. Je ne me sors pas du film. Mais te donne plus conscience du fait que tu es devant un film.
Tout à fait.
Quand il n'y a pas de musique, tu penses pas forcément que tu es devant un documentaire, mais il y a un côté réaliste qui
Oui,
ressort beaucoup
tu crois à
plus.
100%, quoi.
Et donc, quand tu es face à un sujet sociétal aussi difficile
Et
que la
vrai, et véritable,
radicalisation,
c'est pas du tout une fantaisie, quoi.
voilà, quand tu es face à quelque chose aussi réaliste, cette façon de faire. Décuple les effets que font ressentir le film. Donc tu peux pas être insensible face à ce genre de choses. Là où je trouve qu'ils sont parfois un peu plus ratés, c'est vraiment sur la toute fin. Parfois on a l'impression qu'ils savent pas exactement comment terminer leur film. Et ici, on en discutait avec plusieurs confrères à la sortie de la projection. Certains ont l'impression que c'est quelque chose d'assez ouvert. Moi, je trouve que non. Je trouve que la fin est très claire et peut-être un peu trop facile, malheureusement. Mais voilà, c'est un petit bémol par rapport à un très grand film. Je trouve que les Darden avaient été, je vais pas dire plus faibles sur leur dernier film, parce que c'est jamais faible.
C'était avec Marion Cotillard, ça,
Mais
non?
non, le dernier, c'était avec Adèle Haenel,
Ah oui.
la jeune inconnue, quelque chose comme ça.
Oui.
Le précédent, c'était celui avec Marion Cotillard, effectivement, qui était bien. Je l'avais bien aimé, mais il était peut-être un peu en dessous par rapport à leur meilleur. Et là, je trouve qu'il remonte un peu. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont un peu familiers de leur cinéma, le type de fin qu'ils proposent ici va leur sembler un peu assez familière aussi. C'est pas sans rappeler un de leurs précédents films, que je ne citerai pas pour ne pas déflorer quoi que ce soit. Mais ou pour ne pas que vous y puissiez imaginer
Oui,
le type de
ça,
fin
savoir
que
la
c'est.
fin.
Mais voilà, je trouve que la fin est vraiment le seul truc un peu. Tu
Ah,
dis,
si c'était à refaire, c'est ça, quoi.
ouais,
Éventuellement.
ça aurait pu être fait différemment. Surtout que le film est pas très long. Ça qui est très bien avec les Dardenne, c'est que
C'est
ils
efficace, quoi.
racontent ce qu'ils ont à dire. Et puis voilà, donc je pense qu'il fait 1 heure et demie max. peut-être un peu moins, ou 1h20. C'est peut-être bien 1h20. Donc voilà, ils arrivent à traiter leur sujet de façon un peu plus... J'ai trouvé un peu plus inhabituel, parce qu'il y a de plus en plus de films sur la radicalisation.
Ouais.
Et ici, j'ai vraiment beaucoup apprécié le regard qu'ils portaient sur la chose et la façon de raconter. Donc le fait de le faire à travers ce jeune qui a été radicalisé en partie, enfin en tout cas qui est en phase de radicalisation, et du coup montrer quelle est l'étape qui se déroule après. Parce que souvent, quand on nous parle de radicalisation, c'est à travers les parents, c'est à travers les parents qui cherchent la personne qui est souvent partie à l'étranger, etc. Donc là, on est complètement dans autre chose, dans quelque chose d'un peu moins grave, entre guillemets, mais qui est quand même assez important. Donc voilà, je trouve que c'est une nouvelle œuvre réussie des Frères Dardenne, fleuron de notre cinéma belge.
Et au niveau du jeu d'acteur, parce que c'est souvent aussi un gros point fort des Frères Dardenne, c'est qu'ils arrivent à mettre en avant les talents qu'ils ont devant la caméra. Dans ce cas-ci, est-ce que tu soulignes l'interprétation de certaines personnes ?
La plupart sont... la plupart. En tout cas, le jeune comédien, c'est quelqu'un qui n'avait jamais joué auparavant, l'acteur principal. Les autres, on a déjà pu les voir au théâtre ou parfois dans des séries, ce genre de choses. Mais globalement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je suis pas complètement convaincu par certaines choses. Mais à nouveau, ça c'est parfois un peu des détails, c'est des petites choses qui ne déforcent en rien la force globale du film.
L'œuvre dans son ensemble. Qu'est-ce que tu donnes du coup pour le jeune Ahmed des Frères Dardenne ?
Écoute, pour l'instant, je suis un abonné aux 3 étoiles.
3 étoiles pour les Frères Dardenne, pour le jeune Ahmed, décidément. Ça fait 2 films avec 3 étoiles au Festival de Cannes. On est sûr qu'il y aura certainement un 4 étoiles, voire même un 5 étoiles. En général, quand on vient du Festival de Cannes, il y a souvent un film qui te marque plus que les autres.
C'est vrai.
Voilà. Deuxième film de la semaine, on n'a pas d'actualité forcément, parce que si on enregistre ça presque 10 jours avant la diffusion, ça va être compliqué d'être à la page. Hein.
Ouais.
Enfin, on peut simuler une chute de quelqu'un sur le tapis rouge, mais ça va pas être...
Quoi ? Tu... Attends, le duplex ne va plus bien là, Guillaume ?
Non, non.
Tu m'entends ?
Ouais.
Non.
Okay.
Non, on peut pas, ça va pas marcher.
Ah là là. Quelqu'un qui en tout cas n'a pas de problème d'ouïe, et heureusement pour lui, parce qu'il en a besoin...
C'est étonnant qu'il n'en ait pas.
C'est étonnant qu'il n'en ait pas.
Tout ce qu'il tire.
Il doit avoir une concentration de malade, ce type. John Wick 3 Parabellum avec Keanu Reeves. Je pense que ce n'est pas nécessaire de citer le reste du casting. C'est le film de Keanu.
De qui ?
De Keanu.
Keanu.
Keanu, comme le chat. Du coup, le film Keanu avec Jordan Peele. T'as pas vu ?
Ah, d'accord.
Où ils adoptent un chat et ils l'appellent Keanu comme Keanu Reeves. Ok. Et donc du coup, John Wick Parabellum, qu'est-ce qui se passe dans John Wick 3 ? Rappelez-vous un petit peu, hein. John Wick a transgressé la règle fondamentale, il a tué au sein même de l'hôtel Continental.
Ouais. Alors attends, avant de redire tout ça,
ça te fait pas.
Préciser, si vous n'avez pas vu les deux premiers,
une claque obligatoire.
Ouais, déjà. Parce que c'est vraiment bien.
Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire.
Faites-vous plaisir, clairement, parce que c'est d'excellents films d'action.
Ah oui.
Mais surtout ici, on est vraiment dans une trilogie qui se tient uniquement...
C'est ça.
Enfin, il y a un fil rouge, quoi. Donc,
exact.
Idéalement, il faut avoir vu les deux premiers pour revoir celui-ci.
Même en
tout
cas,
je pense qu'il va me prendre du plaisir sans les avoir vus. Mais je te laisse raconter.
Il a commis ce qu'il ne faut pas faire. Il a tué dans l'hôtel Continental. Je ne dis pas qu'est-ce que c'est l'hôtel Continental. Je laisse le plaisir à tout le monde de pouvoir regarder ça tranquillement. Mais très concrètement, une fois qu'on tue à l'intérieur de cet hôtel-là, notre tête est mise à prix. On ne peut pas le faire. Et donc, il se retrouve tout seul, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde. Donc ça promet des affrontements XXL, une fois de plus, pour ce dernier John Wick. Est-ce que le but, c'était de faire une trilogie, ou est-ce que tu penses que c'est possible qu'il continue sans dévoiler la fin du film, bien sûr
Mais ce qui est bien avec cet univers, c'est qu'il y a moyen de faire plein de choses avec,
bien sûr.
En fait. Donc je pense qu'un quatrième opus n'est pas complètement exclu. Mais à mon avis, s'ils font quelque chose, c'est plutôt une série. Ou voilà. En tout cas, il y a le potentiel pour faire des choses en plus. Comment, etc. Ça, je vous laisse juge quand vous aurez vu le film. Mais oui, il y a le potentiel pour
parce
faire
que,
des choses intéressantes.
Parce que, comme on l'a dit, c'est pas uniquement un film d'action qui se concentre sur le personnage de John Wick. Forcément, c'est la star du film. Mais contrairement à, par exemple, l'univers de Taken, où Taken, c'était toujours un peu le même personnage qui fait la même chose. Ici, il y a tout un univers autour du personnage de John Wick qui est intéressant avec des complexités d'autres tueurs, etc. Donc, il y a vraiment, comme tu l'as dit, de quoi exploiter l'univers de John Wick autrement que par ces films-ci. Pourquoi pas en effet une série télé, ça peut être quelque chose d'assez intéressant.
Tout à fait.
Certes, venons-en au fait, hein, John Wick 3, est-ce que ça parvient à continuer le niveau des deux premiers? Parce que pour l'instant, c'est une très belle, un très beau duo de films. Est-ce qu'on a ici un épisode qui va être la cerise sur le gâteau de la trilogie?
Oui.
Ah oui?
Oui.
Ils parviennent à encore hausser le niveau.
Ah ouais, fameusement.
Ah oui, fameusement.
Ouais. Ah ouais, ouais.
Ah bah dis donc, ça fait plaisir à beaucoup de monde, ça.
C'est du très très
c'est
lourd.
Rare qu'une trilogie soit lourde.
Ouais,
allez,
non,
en
c'est
entier.
Vraiment du très très lourd. Il y a alors globalement, donc pour ceux qui ont vu les deux premiers, au moment où le 2 s'arrête, il y a donc John Wick et Winston, donc le directeur du Continental, qui dit qu'il excommunie de cette communauté de la pègre, on va dire ça comme
oui.
ça. Et il lui donne une heure avant de mettre la vie de recherche avec la prime, etc. Donc, le 2 s'arrête où John Wick court dans Central Park, enfin quitte Central Park pour essayer d'aller se planquer. Voilà. Et le 3 commence, pas à Central Park, mais quelques minutes plus tard, il est en train de courir dans New York pour essayer de se préparer au mieux au fait que, une heure plus tard, toute la pègre de New York va lui tomber dessus pour essayer d'avoir les, je pense, 14 millions de primes qui sont promis à la personne qui tuera John Wick.
Et quoi, il va pas à l'aéroport, il achète pas un billet d'avion pour le Brésil
Non, pas le temps en une heure. T'as jamais été à New York, hein, la circulation? Non.
Hélicoptère, fieu direct.
Pas en une heure de Central Park
okay.
à JFK. Et donc, globalement, c'est quelqu'un qui fuit John Wick, pour faire simple.
Souvent, oui.
Et donc, il va devoir affronter des gens plusieurs fois. Il y a, je dirais, trois grosses bastons sur le film. Vraiment des grosses bastons. Les deux premières sont absolument géniales. Il y a des kills hyper inventifs. Dans la deuxième grosse scène d'action, j'ai jamais vu des chiens aussi bien utilisés dans des scènes de bataille, enfin de fight.
Je sais que c'est pas facile de tourner avec des chiens.
T'as des chiens qui tuent des gens, quoi. Enfin, c'est fabuleux. Il y a des chevaux, il y a un cheval qui est impliqué aussi dans.
Oui, il faut une poursuite à cheval.
Dans la première scène de baston, il y a vraiment des trucs super avec des personnages qui se battent dans un couloir avec des vitrines, dans une espèce de musée d'armes ou de vieilles armes. Et donc, à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont dans un couloir avec des couteaux, des sabres, ce genre de choses. Les deux mecs se rendent compte qu'il y a ça derrière eux, bam bam, ils essaient d'attraper quelque chose. Enfin, c'est dingue, c'est fou, c'est vraiment. C'est bien, bien bourrin comme il faut. T'as vraiment. Franchement, t'en as pour ton pognon, quoi. Si t'as envie de voir un truc d'action.
Tu sais ce que tu vas
bourrin,
voir, quoi, ça c'est sûr.
Tu vas voir John Wick 3, quoi. Donc voilà, les deux grosses scènes d'action principales sont géniales, vraiment. Elles sont absolument jouissives, très savoureuses. Mais oui, il y a un petit mec qui arrive. C'est sur la. Parce qu'elles sont vraiment très, 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 très bien. Et donc, quand tu as déjà deux scènes de baston qui sont super bien, pour la baston finale, le truc que les gens, enfin, que les productions font, c'est qu'ils doivent faire au moins aussi bien, voire mieux. Non.
Captain Marvel.
Alors que moi, je pense que ça serait parfois plus intéressant et plus intelligent d'aller à contre-pied, de faire un truc qui pourrait être limite coupé un peu plus court, tu vois. Mais donc, ils essaient de faire aussi bien.
Elle fait un peu forcé, quoi, du coup.
Et du coup, c'est un peu long, ça tire sur la corde. Et tu te dis, ouais, bon, les gars.
Il y avait déjà les chevaux, les chiens.
Il y avait les chevaux, les chiens.
Piranha, c'est pas besoin, quoi, tu vois.
Ouais, non. Pas à ce point-là, mais du coup, même si elle est quand même, il y a pas mal de choses qui sont cool dans la dernière baston, elle est clairement en dessous des deux autres et elle est trop longue. Et franchement, il y a de quoi couper 10-15 minutes, je pense.
Oui, carrément.
Peut-être plus, mais en tout cas, 10-15 minutes, c'est sûr. Et donc, c'est un poil dommage parce que Mais bien voilà, je comprends l'idée à nouveau. Je comprends que tu aies envie d'avoir un truc final aussi bien que ce que, voire mieux que ce que tu as proposé avant. Mais le problème, c'est que les deux avant, elles sont vraiment super bien. Honnêtement, j'ai pas vu des bastons aussi inventives depuis très longtemps au cinéma. Et quand on a deux aussi inventives dans un même film, c'est pouf, oui. Bingo, ding 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 ding. Si t'as envie de voir des mecs qui crèvent, voilà, t'es servi. T'en as pour ton compte, quoi. T'en as pour ton argent. Donc,
et c'est pas un truc de Gerard Butler, quoi. Là, on a de la qualité, on a Keanu.
Mais ouais, et Keanu, c'est l'élu.
C'est devenu une légende grâce c'est à John Wick.
Exactement. Mais
ça
ouais,
l'était déjà un peu avec Matrix, mais maintenant, il a pu confirmer son statut d'action hero.
Ouais, mais ce personnage est génial. En plus, il y a un super casting. Il y a Halle Berry qui a une super scène, notamment dans la deuxième scène de baston. Il y a Ian McShane qui est toujours présent dans le rôle de Winston, le patron de l'hôtel Continental. Son acolyte, Lance Reddick, le black qui est à l'accueil. Ouais. Qui est toujours très cool aussi. Il y a Laurence Fishburne qui était présent dans le deuxième qui est de retour. Laurence Fishburne. Keanu
Reeves. Oui, tout à fait.
Matrix Power.
C'est ça.
Il y a Mark Dacascos aussi, connu notamment pour son fabuleux rôle dans le très beau Crying Freeman de Neil Jordan. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
Non.
Ici, il a un rôle complètement à contre-emploi. On retrouve Jerome Flynn, dont on parlait dans l'épisode précédent. Présent dans Game of Thrones.
D'accord.
Tu vois, celui qui se pointe et qui va faire avec son arbalète avec...
Bron. C'est vrai exactement. Que dans cet univers-là, il collerait plutôt pas mal.
Ouais. Il a un petit rôle sympa. Pas ouf. Court, mais sympa.
Court, ouais, c'est ouais. Ça.
Mais voilà, il y a Saïd Tagmaoui, le frouze qu'on retrouve... Le français, pardon, qu'on retrouve dans...
tous les films de baston.
Tous les films de... Bah, tous les films américains. Donc voilà, gros casting. Des super scènes de baston. Je l'ai dit, je répète. Je vais le répéter encore, s'il faut. Mais c'est vraiment du tout tout bon. Donc si vous aimez les gens qui se battent à poing, enfin avec les poings, avec des flingues, avec des shotguns, avec des chiens, avec des chevaux, avec des couteaux, avec des sabres, avec,
dans
des,
une ville.
Avec des haches. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, là comme ça, je. Mais il y a beaucoup de choses. Y a
ça donne un sourire en tout cas, ça donne un sourire. Mais c'est clair que voilà, on est dans la saison des gros films de l'été qui font plaisir. John Wick était attendu, on est content de le voir là. Et c'est clair que si en plus ça a réussi à clôturer la trilogie avec,
mais ouais.
Avec du lourd, on se fait plaisir.
On se fait plaisir.
On ouais. Se fait plaisir.
Après, alors honnêtement, je suis pas certain qu'ils feront un 4, mais si le 3 marche, ils vont trouver
une
entourloupe pour aller faire un 4. Mais
du coup, qu'est-ce que tu donnes?
Mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait une série basée sur cet univers.
Ça peut être bon. Hein.
Ça pourrait être vraiment cool. Et quelle note je donne, à ton avis? Ah, tu t'hésites? Ouais, c'est vrai que je pourrais hésiter.
Je sais pas, hein. 4?
Trois, oui.
John Wick meilleur que Fred Arden.
Je n'aurais pas. Oui. J'ai pas pensé à me dire, oh, tiens, je vais donner 4. Mais c'est un 3 avec le tampon gros kiff, quoi.
Cinecast approve. Là, vous avez une belle soirée cinéma. Vous enfilez le jeune Amel avec John Wick 3 et vous avez le petit contraste, tu vois. C'est ta récompense. Si tu te dis, j'ai pas envie d'aller voir un film de Fred Arden, tu te dis, bah si, vas-y, allez, vas-y. Va voir un cinéma qui interpelle. Et puis, mais après, t'auras ton John Wick, tu vois. T'auras ton soda après, tu vois.
Ouais.
Donc voilà. Ou bien, tu peux aller voir Aladdin. C'est un autre concept. Hein. C'est le troisième film qui sort cette semaine dans nos salles. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce film-là. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la promo que Will Smith fait partout en Europe pour l'instant. Guy Ritchie, rien qu'à dire son nom, j'ai déjà mal au dos, enfin j'ai mal partout, parce qu'il avait fait le roi Arthur et voilà. Oui, exactement. Et là, il nous sort Aladdin.
Mauvais souvenir, hein, le roi Arthur.
Oui, tout à fait. Un live action du fameux dessin animé Disney, où Will Smith joue le génie. Je ne crois pas que j'ai besoin de présenter le personnage d'Aladin et son histoire. Je pense qu'on connaît tous ce fameux prince qui veut conquérir le cœur de la princesse. Enfin, ce n'est pas un prince, c'est un homme de la rue qui veut conquérir le cœur de la princesse. Et pour ce faire, il va rencontrer un génie. Et ce génie va lui donner 3 vœux. Il dit, voilà, tu as 3 vœux. Et peut-être que tu auras le cœur de la jeune princesse. Et un des fameux vœux qu'il choisit, c'est d'être un prince lui-même. Alors, il devient Prince Ali. Et là, on connaît tous la chanson, mais... Non.
Prince Ali,
oui, c'est bien lui. Ali Abba.
Pas mal.
Pas mal, hein.
Mal.
Sauf que, le petit tollé, c'est que forcément, tout le monde a été habitué à la version de Robin Williams. Hein, tu vois, c'était formidable, le génie de Robin Williams. Et ici, on a Will Smith en live action qui arrive. Et donc, la première question, c'était est-ce que le génie va être bleu, oui ou non? Parce que dans les bandes annonces, Will Smith gardait son look, entre guillemets, Will Smith, et n'était pas le génie bleu. Alors, peux-tu déjà terminer cette question-là, Thibaut?
Eh bien, il y a les deux.
Les deux, il est à la fois bleu et à la fois Will Smith.
Ouais.
Tout à fait.
C'est expliqué, justifié dans le film. Il n'y a pas de problème à ce
c'est
niveau-là.
C'est pas problématique.
Non.
Et donc.
Ce qui est problématique, c'est visiblement le Guy Ritchie, à mon avis, c'est toujours parmi de son divorce avec Madonna, ça a dû lui coûter un pont parce que depuis, il fait que des blockbusters, à mon avis, dont il n'en a rien à foutre de base, mais qui doivent lui rapporter un peu d'argent. Parce que je ne vois pas d'autres raisons à part celle-là.
Ou la promesse.
Je vois pas pourquoi il ferait ses films.
En général, c'est soit de l'argent, soit de la promesse d'un autre film. Genre.
Oui, bah oui, voilà, bien sûr. Mais donc voilà. Parce qu'il y a absolument rien de Guy Ritchie dans ce film, quoi. Un petit peu lors de poursuites, quand Aladdin. Bah, il se fait poursuivre. C'est un voleur. Voilà.
Donc il court dans la ville, il saute voilà. De toit en toit, et voilà.
C'est ça. Ouais. Voilà. Il fait son Aladdin.
Il fait son parcours.
Il fait son parcours. mais. À part dans ces moments-là, je veux dire, il y a rien de Guy Ritchie dans ce film. Quoi. En même temps, bon, c'est Disney. Ils ont eu cette idée
de faire tous les dessins animés en live action.
Artistiquement débile, pécuniairement peut-être intelligente, de refaire tout leur succès en live action, effectivement. Bref, on va pas refaire ce débat.
Il y a Mulan l'année prochaine qui arrive.
Ouais. Bah, à la limite, c'est peut-être
un des plus intéressants.
Un peu d'intérêt, mais bon. Bref, donc déjà, là, je trouve que de base, l'intérêt est très limité. Voilà. Maintenant que c'est dit, le film, voilà, l'intérêt est toujours très limité.
Ça sert à rien, quoi, très concrètement.
C'est un copier-coller de l'histoire qu'on connaît, même si on ne sait pas tout à fait.
Il s'essaie pas un peu de moderniser le truc?
Si, un peu
de rap et tout.
Un peu plus moderne, un peu plus. Il y a des petites différences quand même, notamment au niveau quand il trouve le génie, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis ils se font un gros plaisir à la fin où c'est un gros n'importe quoi total. Tu te demandes ce qu'ils ont fumé, les scénaristes. Mais sinon, oui, c'est Aladdin tel qu'on le connaît.
Chansons sont les mêmes.
Les chansons sont globalement les mêmes. Elles ont parfois été un peu réorchestrées, forcément, mais c'est toujours Alan Menken qui les avait composées, qui est à la musique. Ouais, ouais. Donc, c'est Aladdin. Le problème... Alors, donc, l'histoire se suit sans déplaisir. Hein. Le début est assez sympa. Le milieu, un peu moins sympa, mais ça va encore. Non, enfin, il est assez sympa aussi.
La fin, tu
te demandes ce que tu fais là. Mais il y a un problème général, c'est que le film est moche.
Oui, ça va l'air un peu coloré, comme ça.
Très moche, c'est hideux, c'est dégueulasse. J'ai l'impression de voir les fonds verts derrière, partout quoi.
Ah bah oui, ça c'est pas été tourné en décor naturel. Enfin, ils disent que c'était tourné en Jordanie, mais j'y crois très peu.
Bah, certains trucs peut-être, mais pas beaucoup quoi. Je veux dire, pourtant s'il y a bien un studio qui peut se permettre de lâcher un peu les moyens, c'est eux. Mais là non, c'est vraiment moche. T'as pas l'impression que... En fait, t'as l'impression que c'est enfin si. Si c'était du carton-pâte, tu dirais la même chose.
Bah, le village dans lequel il y allait qu'on se poursuit au début, c'est du carton-pâte.
Ouais, mais oui, mais...
Ils n'ont pas été à Tunisie dans un marché, tu vois ce que je veux dire.
Bah voilà. Non, exactement. Et du coup, quand c'est numérique, t'as l'impression que c'est une bouillie numérique.
Ouais.
C'est un peu... Voilà, c'est infâme. Donc voilà, Aladdin, en fait, c'est ça le problème.
En fait, c'est pas vraiment un live-action, quoi. C'est un CGI, quoi, c'est tout. C'est
que du CGI partout.
C'est ça. Ils disent live-action, mais en fait, c'est pas du tout...
Bah non.
Ce qui serait dommage, parce que, imaginons Mulan, s'ils font un truc, vraiment, ils vont tourner ça en Asie et tout, avec des... Je crois que les acteurs sont tous asiatiques, hein, dans le casting.
Bah, j'espère bien.
Bah, on sait jamais, tu sais, ils pourraient mettre Charlize Theron dans le rôle de Mulan, ils seraient capables. Donc voilà, quoi.
Bah ici ça va, c'est que des... Globalement c'est que des...
C'est pas un Indien qui joue Aladdin ?
Si, je pense. Mais enfin voilà, je veux dire, c'est que des personnes... d'origine, enfin en tout cas qui ont des origines de la région.
Naomi Scott.
Voilà. Non mais elle est anglaise, mais oui. Tu vois bien que ses parents ils sont pas.
Oui.
Ils sont pas.
Oui, d'accord.
Ils sont peut-être en Angleterre, mais t'as compris, qui sont issus de l'immigration.
Un certain héritage. Voilà. Oui, voilà, oui. Tout à fait. Oui.
Tout simplement. Donc là, tu vois qu'il y a un petit effort qui a été fait. Et encore, c'est un petit. Hein, parce qu'il y a certains qui te demandent. Tu me sens là un peu blanc quand même.
Ah, il est là, lui.
Bah après, bon, je pense à Nassim Pedrad, mais qui joue une servante, mais je pense qu'elle est d'origine. Enfin, déjà vu son nom, à mon avis, d'avoir une mère iranienne ou quelque chose comme ça.
C'est ça, perse.
Mais d'origine perse, tout à fait. Mais donc, voilà, je trouve que le casting n'est pas folichon. Naomi Scott, elle est très bien. Même si elle fait beaucoup, globalement, des films de merde, elle est très bien. Le Aladdin, il est sympatoche aussi, mais Namasoud, plutôt, il a la tête de l'emploi, c'est bien.
Bah, c'est pas des chanteurs surtout, principalement. Non. C'est des gens qui savent chanter.
Ils savent chanter,
forcément.
Ils chantent bien, ça va. Will Smith, il fait le show, il fait le Will Smith, mais ça fonctionne super bien. Je trouve que c'est sans doute la meilleure chose du film en fait.
C'est pour ça que c'est lui qui fait beaucoup la promo.
C'est son personnage du génie. Alors par contre, il y a deux trucs qui sont épouvantables. Un, c'est Iago. Déjà, alors. Iago, c'est quand même un perroquet qui est un peu casse-couille, mais qu'on aime bien dans le dessin animé.
Oui.
Ici, c'est un perroquet très moche, très chiant.
Et casse-couille.
Encore plus casse-couille que celui du dessin animé. Donc déjà, Iago,
c'est pas le perroquet CGI.
C'est un perroquet CGI, évidemment. Mais dernière chose, et ça c'est la pire, miscast total, c'est le Jafar, quoi.
C'est qui, Jafar?
Alors, il s'appelle Marwan Kenzari. Alors, c'est pas que ce gars est mauvais, mais je veux dire, à la limite, il aurait pu jouer à Aladdin, tu vois. Il n'y a pas du tout la tronche. Enfin,
c'est un jeune ouais, beau gosse, quoi.
Mais oui, c'est un jeune beau gosse.
c'est pas Jafar.
Il est peut-être bon acteur, mais du coup, ici, c'est miscast total.
C'est pas Ramzy, quoi.
Mais
tu
non,
vois.
C'est pas. C'est, nous, on voulait Gérard Darmon, quoi.
Oui, c'est ça, Gérard Darmon ou
non,
Ramzy.
Là, t'as un. Ouais, enfin. T'as l'impression que c'est Dev Patel, j'exagère, hein, mais. Il a l'air trop gentil. Ça va
oui,
pas.
Oui, il faut un
ça
méchant. Quoi. Il faut voir un méchant. Surtout quand il y en a des Indiens dans les films indiens et tout.
Il est jamais crédible en tant que Jafar. Ça, c'est très très problématique parce que, enfin, je veux dire, tous les enjeux sont là. C'est le méchant.
Oui, il a peur, quoi.
C'est pas un Jafar. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Et donc, effectivement, le film n'a pas, pas beaucoup d'intérêt. Mais ouais, grosse. Alors, okay. Je vais pas dire que c'est une grosse déception parce que j'en attendais rien, vraiment rien. Et effectivement, j'ai rien eu. Je pourrais peut-être dire que c'était limite un poil mieux que rien. Mais parce que j'ai pas détesté le film. Il y a des passages qui sont réussis.
C'est plat, quoi. Mais ça passe.
Mais effectivement, c'est plutôt plat et sans grand intérêt.
C'est dommage parce qu'avec un univers pareil, à moins de faire rêver, je veux dire, Aladdin, c'est quand même un des Disney les plus féeriques. Il y a le tapis volant, les sables, le temple avec l'or et tout, là où ouais. Il trouve le génie. Il y a plein de trucs un peu mythiques. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films Disney qui se passent dans cette région-là du monde, il faut le dire aussi. Mm-hmm. Donc il y avait moyen de faire vraiment quelque chose d'assez assez authentique. Et là, c'est vrai que ça fait un peu la bouse de Guy Ritchie avec Will Smith qui vient cacheter. Quoi. C'est un peu ça le.
Pas qu'un peu.
Pas qu'un peu.
C'est complètement ça. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait, je pense, de quoi faire mieux. Parce qu'en plus, s'ils veulent vraiment refaire leur Disney, les Disney des années 90, des années 90, c'est parmi les meilleurs, je trouve.
Bah, il y a le Roi Lion qui arrive bientôt, mais ça, c'est encore
autre chose. Voilà. Mais ça va être la même chose. Hein. Ça va être une bouillie CGI très moche. Parce qu'ils ont...
Et ça va être du plan pour plan, même chose.
Ils ont vraiment pas l'air très bien, hein, les animaux dans le Roi Lion, je trouve. Je trouve que quand tu vois le livre de la jungle de Favreau était pas trop mal. Je trouve que le livre de la jungle d'Andy Serkis qui est disponible sur Netflix, ouais. C'était mieux. Mais, non, mais les animaux en CGI, il faut arrêter. Quoi.
Mais tu vas pas prendre un frère cochère, tu vois ce que j'ai
dit. Bah non, bien sûr. Mais,
ça va devenir compliqué.
Bah non, très clairement.
Le mec, il a fait 15 ans pour faire son film parce qu'il doit avoir des plans de frère cochère avec des lémuriens.
C'est juste qu'il faut pas y arriver. S'abstenir, c'est tout.
Oui.
Et s'ils veulent vraiment refaire des films plus live... Qu'ils fassent La Petite Sirène, qu'ils fassent des films Hercule, là où il y a
non,
au moins un peu plus de
plein.
Personnages humains, tu vois.
Je pense à un film
La Planète au Trésor serait super bien.
Un film live qui pourrait super bien donner, c'est un film qui n'a pas été très. Qui a pas super... Il y en a deux qui pourraient très bien donner chez Disney. Je suis même pas sûr qu'il y en ait qui est Disney, en fait. Oui, parce que c'est l'époque où Disney commençait un petit peu à être dans l'ombre de DreamWorks et tout, là. Le Prince d'Égypte, c'est pas Disney.
C'est DreamWorks.
C'est DreamWorks. Et Atlantide, ça, c'est Disney.
Ça, c'est Disney. Mais voilà.
Ça, ils pourraient faire un film Atlantide. Franchement, il y a quoi
Atlantide
de faire, là.
Atlantide et La Planète au Trésor, pour moi, c'est les deux meilleurs où il y a le potentiel à crever pour faire des films live.
Tu vas sous l'eau et tout, rechercher la ville d'Atlantide. C'est génial.
Ouais.
Bon, écoute, voilà, on va envoyer une lettre à Bob Iger chez Disney pour revoir ses plans avec ses une title Marvel movie et une title Star Wars movie dans les 4 prochaines années.
Et une title de Disney movie.
Et, oui, Toy Story 6, ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on lui donne à Aladdin du coup? C'est une étoile, c'est ça? Et encore?
Rien.
Rien?
Non, vraiment rien.
Même pas voilà, un vœu, quoi. Tu fais rien du tout, quoi.
Non. Non.
Yay.
Déception.
Ça ne va pas aider la carrière de Will Smith, tout ça. Hein.
Non. Bah, quoique son Gemini a l'air sympa là, le prochain film de Ang Lee.
Gemini Man, ouais.
Gemini Man, ça a l'air vraiment cool.
Ça a l'air atypique, ouais. C'est vrai que pour une fois, il prend un risque.
Je sais pas c'était quoi le dernier bon film de Will Smith, mais là ça fait un moment. Hein.
Ça date, ouais, ça date.
C'était... Je suis une.
After
légende.
Earth
c'était épouvantable, After Earth.
J'ai vu un reportage hier dans 50 minutes inside. Crois-tu? Et je regarde voir des trucs intéressants. Il y avait un reportage sur Will Smith et justement sur le fait que sa carrière battait de l'aile. Et que ça date depuis l'époque où il a refusé de jouer Django. Parce que Tarantino lui a dit « Est-ce que tu veux jouer Django ?» Lui, il a dit « Non, c'est trop raciste. Le mot « nigger » et tout, j'ai pas envie de dire ça au cinéma. Okay. » Et donc, du coup, bah, il a quand même raté un des rôles. C'est comme un rôle phare pour un Afro-Américain. Hein. Jouer Django, c'est quand même le rôle classe.
Il était,
quoi, tu
il
vois
était top. Hein.
Voilà. Et donc, il a refusé ça. Et après, il a pris un peu un coup dans l'aile. Ça l'a un peu déprimé, il paraît. Parce que le film, il s'attendait pas à ce que ce soit un truc aussi mythique. Et il a dit tiens c'est lui qui a pitché After Earth apparemment au studio. Il a dit on va mettre mon fils dans le rôle du oui, déjà le truc ça pue. Et puis depuis bah il a une chaîne YouTube quoi, c'est bien.
Et il a pas une marque de
Suicide Squad
de il... non mais le fils de Will Smith il a pas une marque de d'eau ou je sais pas quoi là.
Je sais pas mais en tout cas c'est un chanteur enfin il joue à Coachella.
J'ai l'impression qu'ils font tous 10 000 trucs différents.
Ah oui, chez Smith ça pistonne sec.
Et donc tout ça pour dire vivement Gemini Man et Bad Boys 4. Oh. Bad Boys 3.
3
3, 3 pardon. 3. Ouais.
Bad Boys 3. Par contre, je suis pas sûr que ça va être terrible non plus.
Ça va pas être ouf, mais il y aura un petit côté tu peux le pardonner, tu vois.
Ouais. Je crois qu'Adil et Bilal vont se casser les dents, mais bon, on verra. Espérons pour que ce soit pas le cas, mais c'est vrai que ça va être assez chaud quand même.
Ouais, ça va être compliqué.
Après, pas de serre. Bon. On termine cet épisode sur cette belle note, sur cette note un peu mitigée. C'est vrai qu'on a eu le jeune Ahmed qui était une bonne surprise des frères Dardenne qui vaut la peine d'être vu. C'est un film brut, on le sait, mais c'est pour ça qu'on les aime quand même, les frères Dardenne, de nous amener une vérité comme ça dans les yeux avec un sujet intéressant qui n'est pas traité d'une manière habituelle. Et pour ça,
ouais.
C'est toujours intéressant.
Je pense pas qu'ils ramèneront une troisième Palme d'Or avec ça. Comme je pense pas que Almodovar gagnera sa première Palme d'Or.
Tout dépend de la concurrence, hein, tout dépend de ce qui se passe ailleurs. Donc
mais
on verra.
Je pense qu'il y aura de très bonnes surprises à Cannes.
Bah, j'espère aussi. John Wick 3, bah, voilà, autant vous le dire tout de suite, c'est le film de la semaine. Avec le jeune Ahmed. Oui, bah, Keanu Reeves sur un cheval qui se bat, je veux dire, il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'explications de ça. Et puis le truc des sabres, ça m'a bien donné envie, quoi, tu vois, ton explication.
Ah, ouais. Enfin bref, ouais.
Et Aladdin, bon ben voilà, Aladdin, c'est pas une surprise, hein, c'est un peu de la bouse.
J'adore comment tu présentes la chose. C'est pas une surprise, c'était nul.
Malheureusement, malheureusement, c'est pas bon. Mais moi, dès que j'ai vu le nom Guy Ritchie, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là-dedans?
J'aime bien Guy Ritchie, mais quand il fait du Guy Ritchie, en fait.
Oui, quand il fait un truc anglais, quoi.
Ok, il fait tout le temps la même chose, mais en fait, c'est ce qui fonctionne. Dès qu'il fait autre chose, laisse tomber, quoi.
Bah oui.
Dans Le Roi Arthur, on l'a dit à l'époque, la scène qui fonctionne le mieux du film, c'est la scène à la Guy Ritchie. Où il raconte le truc,
il fait
ils
style,
sont battus, machin, c'est ça.
Ouais.
Tout le reste, c'était nul. Et là, bah, c'est un faiseur, quoi.
En Jordanie, sur fond vert, avec Will Smith qui fait des blagues et du rap.
Ouais.
C'est Aladdin, nouvelle version. Mais bon, on critique, on est des vieux cons. Hein. Peut-être que les jeunes, ils vont aimer ça. Aujourd'hui, ça va devenir leur petite Madeleine de Proust. Mais,
ouais, mais honnêtement,
pas.
Moi, je suis pas sûr que si tu montes ça. Alors, peut-être que les gosses, ils vont aimer, mais si tu leur montres le film avant le dessin animé, je suis sûr qu'ils vont préférer le dessin animé après.
C'est vrai qu'il est carton de ça.
Ah, bien sûr. Canon. Tout le Disney, c'est pareil.
Ok.
Tu montres la Belle et la Bête, là, d'il y a 2 ans.
Personne n'en parle.
Et puis tu montres le film d'animation, bah, c'est pas photo.
Bah, il y en a un des deux qui reste.
Mais si
hein.
Tu montres ça à des gosses de maintenant. Hein.
Lequel reste? Lequel va rester dans la mémoire? C'est ça la question.
Mais ils restent tous, hein. Tous les parents qui montrent
les dessins animés.
Les Disney.
Les dessins animés restent dans la mémoire, bah, bien sûr. J'avais vu que c'est Roberto Benigni qui, après avoir gagné un Oscar pour La Vie est Belle, à 2 Oscars pour La Vie est Belle, a réalisé Pinocchio.
Oui, oui,
en live action, qui a 0% sur Rotten Tomatoes.
Non, mais il veut. C'est un projet qu'il a. Mais
non, non, c'est fait, Pinocchio. Ça date de légende. Il paraît que c'est.
Ah, wow. Oui, oui, mais c'est un truc qu'il a. Oui, 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 je vois ce que je veux dire, pardon.
Où il joue Pinocchio déjà, Pinocchio
oui,
qui a 40 ans.
Oui, oui, mais c'est. Ouais, mais c'est très. Enfin, c'est Roberto Benigni, je veux dire, c'est très.
Ah, oui, bien sûr.
C'est très fabulé. C'est pas,
bien sûr. Mais allez voir la bande-annonce de ce film-là si vous avez envie d'être un peu surpris. C'est sur cette note-ci qu'on clôture l'épisode. On se voit après Cannes, Thibaut, où tu vas nous faire un peu un débrief de ce qui s'est passé, de quelle pizza t'as mangé, de
avec
quel
plaisir. Quel verre de rosé vous avez. Émission sur place. Hein.
Bah oui, prends le matos, hein. Fais-toi plaisir et ramène-le en une pièce.
Je prendrai de la place dans ma valise.
Oui, prends pas tout.
Ouais,
sur ce,
bah
à bientôt.
Oui, je vais essayer d'aller. Bah, je vais terminer ma valise et puis je pars. Je prends l'avion.
C'est
tout
ça. Suite. Allez, ciao, ciao, des bisous.